25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à Sur la glace, notre balado-diffusion qui traite de la Ligue américaine, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, des meilleurs espoirs. On parle de Midget 3. On fait le tour un peu de ce qui se passe au hockey autre que la Ligue nationale. C'est déjà notre troisième présentation de la saison. Très heureux de me retrouver à nouveau avec vous pour à peu près une demi-heure, 35 minutes. Ça dépend un petit peu comment ça se passe. Il n'y a pas de limite de temps, mais généralement, c'est à peu près ça. Alors, à nouveau, cette semaine, on va faire le tour de ce qui s'est passé au hockey junior. On a deux invités en entrevue dont on va vous présenter les extraits dans quelques instants. Joe Valeno, des Voltigeurs de Drummondville, et Alexis Schenk, gardien de but des Saguenayens de Chicoutimi, qui seront avec nous un petit peu plus tard. Mais comme on le fait à chaque semaine, on commence notre segment avec le hockey du Rocket de Laval, le hockey de la Ligue américaine. Et cette semaine, on a décidé de faire appel à notre collègue sur la diffusion des matchs du Rocket. Il y a eu une grosse fin de semaine. Patrick Friolet qui est avec nous. Salut, Pat!
Salut, Steph!
Oui, alors ça, je disais, hein, Laval vendredi soir, le match du Canadien samedi à Ottawa, l'impact hier, multitâche. On lâche pas, mais c'est comme ça. Hein, dans ce job-là, c'est...
On
a des grosses fins de semaine, des fois, ouais.
Oui, exact. On change un peu les batteries, mais là, effectivement, demain, encore Ottawa. Donc, écoute, c'est ça, mais c'est stimulant. On se tient occupé.
Patrick, évidemment, on va revenir sur les deux matchs du... En fait, il y a eu trois matchs la semaine dernière du Rocket. Mercredi contre Hartford, une victoire. Et deux défaites vendredi et samedi contre les Thunderbirds de Springfield. Ce qu'il faut noter depuis le début de la saison, je pense, chez le Rocket de Laval, qui a une fiche de 3 victoires, 4 défaites, on manque un peu d'opportunisme. On domine dans à peu près chaque match au niveau des tirs au but, mais les victoires sont difficiles à aller chercher. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu vois ça aussi?
Oui, j'ai l'impression que c'est... Moi, ce que je me dis, c'est que c'est un peu comme si c'était une question de temps avant que les choses débloquent, parce que les occasions, on les a. On a une bonne structure déjà rapidement dans la saison. On donne pas beaucoup d'occasions aux adversaires, mais on n'arrive pas à avoir l'instinct du tueur là, et de faire la différence quand on peut le faire. Par exemple, le match qu'on a présenté vendredi dernier, le Rocket a perdu 5-3, mais en première période, on menait 14-4 au chapitre des tirs. On a raté trois opportunités en avantage numérique seulement dans cette première période-là. Et seulement un but, ça aurait pu faire une différence déjà à ce moment-là parce qu'on menait seulement 1-0 après une période. Et là, par la suite, ben, les Thunderbirds sont revenus progressivement dans le match pour gagner. Mais oui, j'ai vraiment le sentiment que il y a plusieurs joueurs qui sont sur le point de débloquer et il y a des choses qui pourraient sourire au Rocket, mais il faudrait justement profiter de ces occasions-là, surtout en avantage numérique.
Moi, la statistique qui me fait un peu dresser les cheveux, là, c'est les buts versus les tirs au but. Le Rocket, jusqu'à présent, a marqué 20 buts en 7 matchs. Bon, ça pourrait être mieux, comme tu le dis, mais c'est quand même pas si mal. 20 buts sur 226 tirs. Mais on a accordé également 20 buts, Patrick, mais sur seulement 132 tirs. Presque 100 lancés de moins. Et on a donné le même nombre de buts. Je pense que quelque part, il va falloir que les gardiens soient un petit peu plus solides, sans nécessairement leur lancer la pierre. Le taux d'efficacité des deux gardiens combinés était 848 en ce moment. C'est nettement insuffisant.
Non, c'est clair. Et quand on regarde justement le match de vendredi, Charlie Lindgren qui a donné 4 buts sur 22 tirs, 3 buts sur 15 tirs de McNevin samedi, effectivement, c'est vraiment insuffisant. On a eu quand même des occasions, on a donné quand même de bonnes occasions dans certains matchs, notamment vendredi, alors qu'on a eu des échappées. Un but qui a été marqué par Greco en échappé et l'autre où Lindgren a fait un arrêt quand même en fin de match pour garder son équipe dans le match, entretenir un peu l'espoir de revenir. Mais en même temps, on n'a pas le sentiment que Lindgren est le gardien qui devrait être. C'est un gardien qui a grandi au cours des dernières années. L'année dernière, là, en début de saison, c'était une catastrophe, la défense. Il se faisait souvent bombarder. On avait souvent des deuxièmes occasions lorsqu'il faisait un premier arrêt. Là, on a réussi à limiter ça. On fait le premier arrêt, la rondelle est récupérée, on relance le jeu. Mais souvent, ce premier arrêt-là, ben, on n'arrive pas à le faire présentement. Et on sent que Lindgren n'est pas tout à fait à l'aise en début de saison. On le sent beaucoup chercher la rondelle, souvent pas tout à fait en position. Donc, à ce niveau-là, il y a du travail à faire. C'est clair que on va faire beaucoup de travail avec Charlie Lindgren pour améliorer ça. Et parce que si, normalement, là, Stéphane, c'est clair, tu le sais, là, quand on limite l'adversaire à aussi peu de tirs et à aussi peu d'occasions de marquer, mais normalement, on est supposé sortir gagnant.
Le Rocket est au premier rang de toute la Ligue américaine, des 31 équipes de la Ligue américaine pour le moins de tirs accordés par match, une moyenne légèrement inférieure à 19 tirs par match d'accordés. Alors, c'est 5 de moins que l'équipe qui suit au classement. Laval, avec cette statistique-là, ne devrait pas être aussi loin au classement général. C'est un début de saison, il ne faut pas partir en peur, évidemment, là, mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, on s'attend à mieux. J'aimerais que tu me parles, Patrick, tu étais là à l'entraînement vendredi matin lorsqu'on a appris qu'on allait laisser Daniel Audette de côté pour un match vendredi soir. C'était la première fois là, en 2 ans et quelques pouces que Audette était laissé de côté pour un match dans sa carrière professionnelle. Il a bien rebondi samedi, il a joué un match plus inspiré, mais comment tu as vu cette décision-là?
Mais dès le départ, Joël a voulu être clair. Il a dit que c'était pas en raison du mauvais jeu de Daniel Audette. Il a quand même dit que oui, il voudrait qu'il soit plus constant. Mais en même temps, il voulait aussi donner une opportunité à Aiden Verbee, qui est un joueur qui, à mon avis, ressemble à Daniel Audette. On a vu qu'il est capable d'avoir beaucoup de vitesse, Aiden Verbeek, mais à mon avis, il y a des qualités du côté de Depp qui sont supérieures. Donc là, est-ce que c'était une façon de le souhaiter? Il a bien répondu dans le match de samedi, effectivement. Donc, moi, je m'attends à plus de la part de Daniel Audette. Je m'attends à ce qu'on lui donne des opportunités. Mais en même temps, il faut que les occasions viennent et qu'on le récompense lorsque l'occasion se présente. Parce que là, présentement, on l'a très peu vu, sinon pas du tout en avantage numérique depuis le début de la saison. Est-ce qu'on veut donner l'opportunité à Daniel Audette de produire à ce niveau-là ou est-ce qu'on veut simplement qu'il devienne un joueur qui va apporter de l'énergie sur un trio de soutien? Moi, je continue de penser que c'est un joueur qui a un excellent talent offensif, Daniel Audette, mais il y a encore des améliorations à faire au niveau de sa prise de décision. C'était souvent son problème l'an dernier. On le voyait partir, patiner, être très utile en transition, mais quand il arrivait en zone offensive, parfois ça se gâchait. Donc, à ce niveau-là, est-ce qu'il a suffisamment fait de progrès? Peut-être pas tout à fait au goût de Joël Bouchard, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il a été en mesure de lui redonner un match rapidement pour lui permettre de rebondir. Et là, il a rebondi. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses avec Joël Bouchard et les décisions qu'il va prendre.
Il y a Gustav Olofsson qui a été blessé vendredi, n'était pas en uniforme samedi. Faudra voir maintenant la durée de son absence, mais ça semble sérieux du côté de son épaule.
Oui, c'est inquiétant quand même là, parce que effectivement, on croyait à la base qu'il avait été bloqué par un tir qui l'avait atteint, mais c'était déjà précédemment sur la séquence où il se tenait l'épaule. Et oui, malheureusement, c'est une blessure qui revient. Et l'épaule, souvent, ça peut être très complexe là, parce qu'on ne sait jamais quand ça va tenir le coup, est-ce que ça va lâcher. C'était déjà une question de regagner la confiance au niveau de son épaule. Mais là, maintenant qu'il revient au jeu et qu'il se blesse à nouveau, c'est inquiétant. J'ai pas suivi les dernières nouvelles. Évidemment, on n'a pas eu de nouvelles récentes là, sur son état de santé. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir redoubler de prudence pour s'assurer qu'il soit en mesure de jouer plus longtemps lors de son prochain retour au jeu.
Patrick, merci d'avoir pris le temps d'avoir discuté avec nous. Bon restant de journée de congé. Puis on va te souhaiter de recharger tes batteries comme il faut. On se reparle très prochainement. Merci beaucoup, Patrick Friolet.
Merci beaucoup, Steph. Bye-bye.
Voilà, c'était Patrick Friolet, notre collègue sur le hockey du Rocket à l'antenne de RDS. Et Patrick qui couvre également le Canadien et les Sénateurs d'Ottawa. Peut-être pour compléter notre segment de la Ligue américaine, le Rocket a une petite semaine cette semaine, seulement 2 matchs, les 2 à l'étranger. Le Rocket qui va jouer contre les Marlies de Toronto demain soir à Toronto et qui samedi prochain va se rendre à Rochester pour affronter les Americans de Rochester. Les Marlies ont un début de saison coup-ci, coup-ça, 2 victoires, 4 défaites, 1 défaite en bris d'égalité, donc seulement 2 gains en 7 matchs. Pour ce qui est de Rochester, par contre, ça va bien, 5 victoires en 8 matchs depuis le début de la saison. Alors, on va voir ce que le Rocket sera en mesure d'accomplir à l'étranger. À son premier voyage de la saison, on avait divisé les honneurs des 2 premiers matchs, 1 victoire et 1 défaite. Je voudrais également parler de, sans dire que ce soit inquiétant, il y a eu 5 matchs disputés à la Place Belle à Laval depuis le début de la saison et honnêtement, les assistances ont été plus décevantes. C'est L'an passé, le Rocket a terminé au 8e rang de la Ligue américaine avec une moyenne de 6700 spectateurs par match à la fin de la saison. Bon, évidemment, il y avait l'effet nouveauté et tout ça. Cette année, le premier match a attiré plus de 8000 spectateurs, mais depuis, aucune foule supérieure à 5000 spectateurs. Alors, c'est tôt en saison. C'est sûr que ça va sûrement remonter au cours des prochains matchs, mais je lance un appel, là. Les gens qui aiment voir du bon hockey dans un amphithéâtre de qualité exceptionnel, la Place Belle à Laval, beaucoup moins dispendieux que la Ligue nationale, voir des joueurs qui vont jouer dans la Ligue nationale prochainement. Je pense que le rapport qualité-prix est excellent là, pour le Rocket de Laval. Alors, la Place Belle, on sera là, nous à RDS, pour plus de 15 autres fois cette saison. Mais vous pouvez aller voir des matchs la semaine prochaine. Laval sera de retour à la maison, notamment pour affronter Utica. Il y a une visite des Sénateurs de Belleville également la semaine prochaine. Alors, procurez-vous vos billets et allez encourager le club école du Rocket. C'est un bon spectacle, je pense, à un prix raisonnable pour aller voir du hockey professionnel. On va parler également de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, comme on le fait à chaque semaine. Il s'est passé à nouveau beaucoup de choses au cours du week-end. Il y a les Moussets d'Halifax qui sont finalement rendus presque à terme de cette séquence très difficile en début de saison. Ils devaient jouer leurs 15 premiers matchs de la saison à l'étranger en raison de rénovation à leur amphithéâtre. Ils en ont 14 de jouer. Il en reste un vendredi soir à jouer à Sydney au Cap-Breton. Et finalement, samedi, ils vont procéder à leur ouverture locale contre les mêmes Screaming Eagles qui seront les visiteurs. D'ailleurs, le week-end prochain dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est le week-end des rivalités. Alors, tous les matchs impliquent des programmes doubles entre deux équipes qui ne sont pas très loin. Chicoutimi joue contre Baie-Comeau, Victoriaville contre Shawinigan, Val-d'Or contre Rouyn, Québec contre Rimouski. Alors, c'est un week-end qu'on appelle le week-end des rivalités. Et les Moussets d'Halifax seront au Cap-Breton vendredi pour leur 15e et dernier match de cette séquence de 15 à l'étranger. Et par la suite, ils vont commencer à disputer finalement des matchs à la maison. Ils ont une fiche de 11 victoires, 3 défaites dans cette séquence. Ils sont deuxièmes au classement général. Imaginez, ils ont 14 matchs déjà de jouer sur les 34 qu'ils doivent jouer à l'étranger. Alors, c'est clair qu'en deuxième moitié de saison, à compter de la semaine prochaine, il y aura plusieurs matchs à domicile pour les Mooseheads qui pourront reprendre leur souffle, avoir de meilleures qualités d'entraînement. Alors, ça augure bien pour les Mooseheads qui, honnêtement, ça aurait pu être catastrophique. Là, commencer une saison avec 15 matchs de suite à l'étranger et ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Ils s'en sont très bien sortis. Les Huskies de Rouyn-Noranda avaient un gros week-end en fin de semaine également. Ils devaient jouer deux matchs à Baie-Comeau et un match à Chicoutimi. Ils sont sortis de ce week-end avec deux victoires et une défaite et occupent toujours le premier rang du classement général avec 11 gains et 2 échecs depuis le début de la saison. Parmi les nouvelles de la semaine, deux retiennent mon attention. Peut-être vous mentionnez d'abord que le gardien Émile Sanson de l'Armada de Blainville-Boisbriand a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a signé 2 victoires, n'a donné qu'un but en 2 matchs. Mais deux nouvelles qui ont retenu l'attention. D'abord, jeudi dernier, dans un match à Chicoutimi, les remparts étaient les visiteurs des Saguenayens. Et malheureusement, dans ce match-là, il y a deux joueurs qui sont tombés au combat. Louis-Philippe Côté, du côté des remparts de Québec, qui connaissait un excellent début de saison, a été blessé, va rater de 4 à 6 semaines. De même que la recrue des Saguenayens de Chicoutimi, Hendrix Lapierre, qui a été blessé à une épaule et lui aussi devra rater de 4 à 6 semaines. Et ça tombe vraiment mal parce que ça va lui faire rater le défi mondial des moins de 17 ans. Lapierre était la meilleure recrue depuis le début de la saison. 14 points en 11 matchs. Il était la meilleure recrue en termes de production offensive, non seulement de la Ligue junior majeure du Québec, mais de toute la Ligue canadienne de hockey. Lapierre qui a été le tout premier choix de la séance de sélection Midget l'an dernier, cette année, en 2018. Donc, c'est une lourde perte pour les Saguenayens qui connaissent un bon début de saison. L'autre nouvelle qui est intéressante pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est du côté de Sherbrooke. À compter de demain, le Phoenix va pouvoir compter sur un nouveau défenseur, Jérémy Jacques. Qui est Jérémy Jacques? C'est un jeune défenseur de 17 ans qui, l'an dernier, en 2017, était considéré comme un espoir de première ronde pour le repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais il avait décidé d'opter pour l'option des universités américaines et devait jouer à l'Université Nebraska-Omaha l'an prochain. Mais avant de jouer pour l'Université Nebraska-Omaha, il devait passer 2 saisons dans la USHL aux États-Unis, à Waterloo. Il a joué là-bas l'an passé 22 matchs avec les Blackhawks de Waterloo. Et cette année, depuis le début de la saison, il n'était pas satisfait de l'utilisation qu'on faisait de lui. a décidé finalement de tourner le dos à l'option de la NCAA pour rejoindre les rangs du Phoenix de Sherbrooke. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les Wildcats de Moncton qu'il avait repêché en deuxième ronde l'an dernier. Il avait glissé en deuxième ronde justement parce qu'il avait mentionné à tout le monde qu'il voulait jouer dans les collèges américains. Et Moncton avait pris une chance. Mais il y a eu une transaction l'an dernier entre Moncton et Sherbrooke. Et le nom de Jérémy Jacques a été inséré dans cette transaction-là en direction de Moncton à Sherbrooke. Et là, finalement, le Phoenix a appris qu'il va se rapporter. Il est dans l'autobus présentement en direction de l'Abitibi et devrait jouer son premier match demain. J'ai échangé des messages texte tantôt avec l'entraîneur-chef du Phoenix, Stéphane Julien, qui m'a confirmé que Jérémy Jacques devrait disputer ses deux premiers matchs en Abitibi cette semaine. Donc, c'est une addition intéressante. C'est sûr qu'en début, ça va peut-être être difficile pour Jérémy Jacques en début lors des premiers matchs. Il n'a pas beaucoup joué au cours des deux dernières saisons, mais c'est quand même un bonhomme qui était catalogué comme un espoir très intéressant pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'an dernier. Alors, Jérémy Jacques qui s'ajoute donc à l'alignement du Phoenix de Sherbrooke. Jeudi dernier, je me suis rendu du côté de Drummondville pour assister au match entre les Foreurs de Val-d'Or et les Voltigeurs de Drummondville. Les Foreurs qui connaissent un début de saison extrêmement difficile, seulement 3 victoires en 13 matchs. Ils ont réussi à gagner hier contre les Olympiques à Gatineau. Mais il en demeure pas moins que c'est un début de saison extrêmement difficile pour les Foreurs. Du côté des Voltigeurs, ça se passe relativement bien. 9 victoires, 5 défaites. On a perdu hier Drummondville contre Halifax en prolongation, mais c'est quand même une séquence intéressante. Et il y a un joueur qui va très bien du côté des Voltigeurs, c'est Joe Valeno. 9 buts, 9 passes pour 18 points en 12 matchs depuis le début de la saison. Et je me suis entretenu jeudi avec Joe Valeno. Je lui ai d'abord demandé comment il qualifiait son début de saison.
Je pense que oui. Je pense comme équipe, on a eu des moments un peu difficile, puis des moments qu'on était vraiment très bons. Mais tu sais, je pense que maintenant, on commence à prendre notre jeu, on commence à jouer comme on est supposé, puis je pense qu'à date, le chemin commence à être là, puis tout va bien maintenant.
Est-ce que tu dirais qu'il y a eu un manque de constance un peu? Tu sais, vous gagnez un match par un haut pointage, j'en perdez un par un haut pointage, vous regagnez après. Est-ce que c'est ça un petit peu l'histoire de votre début de saison?
Ouais, c'est ça qu'on voulait corriger, c'est d'être constant dans notre jeu. C'est des matchs, comme tu as dit, on va gagner par un gros score, puis le match après, on va perdre. Ça va être 1-1-1-1, puis je pense qu'on doit essayer de trouver la constance dans notre jeu, puis essayer de gagner les matchs, essayer de jouer notre façon à tous les matchs.
Est-ce que les joueurs parlent beaucoup dans le vestiaire du fait que Maxime Comtois est pas revenu? Là, vous regardez un peu, je sais que ça fait pas 3 ans qu'il joue ici, mais il est supposé jouer avec vous autres quand même. Est-ce que vous regardez ça beaucoup?
Un peu, tu sais, c'est un gros parti de notre équipe, puis on souhaite les meilleures des chances dans la LNH. Tu sais, on le suit à chaque match, puis je pense que tout va bien avec lui. Tu sais, il ramasse des points, il joue très bien, alors bon pour lui, mais tu sais, je pense que tout le monde dans le vestiaire veut qu'il se revienne avec nous autres, puis nous aider, mais je pense en même temps, il mérite d'être là, puis même avec avec pas de Comtois, on doit trouver des façons à gagner, puis un joueur doit pas faire la différence dans notre équipe, mais c'est sûr que c'est un gros parti qui nous manque, mais on doit essayer de trouver des victoires même s'il n'est pas là.
Avec plusieurs joueurs, des Voltigeurs, 5 qui ont été nommés là, pour jouer contre les Russes, ça dénote un peu la profondeur que vous avez.
Ah, c'est sûr, c'est vraiment nice de voir, surtout que c'est à Drummondville cette année, puis Sherbrooke, c'est nice d'avoir des joueurs participer à cette expérience-là, puis on a des bons gars, on est vraiment deep à l'attaque, puis à la défense, puis dans les buts. Alors, je pense que tout le monde mérite d'être là.
C'est une étape pour l'équipe Canada Junior. On dit tout le temps, c'est un tournoi pour les 19 ans. Tu as juste 18 ans, tu as un cas particulier. Tu n'es pas obligé de jouer dans la Ligue l'an prochain ici. Alors, c'est un peu ta dernière chance là, de jouer dans cette équipe-là à Noël. Tu as déjà fait les autres programmes. Là. En quoi c'est important pour toi, ça, cette expérience-là?
C'est sûr, je veux participer à ce tournoi-là. C'était toujours un rêve de jouer pour l'équipe Canada. Autant des fêtes, alors je vais faire tout ce que je peux pour rendre là. Je vais corriger les petits détails dans mon game qui va faire la différence là-bas. Puis je vais être bon défensivement, je vais être bon offensivement aussi. Alors je vais jouer les deux sens de la patinoire. Puis je suis bien sûr que si je fais ça comme il faut, je vais avoir des bonnes chances à réussir là-bas.
Est-ce que tu es conscient qu'en allant à cette équipe-là, ça se peut que tu es obligé de changer un peu ta game justement parce qu'il y a tellement de bons joueurs qu'il faut que tu acceptes un autre rôle, un peu comme Comtois l'an passé?
Oui, c'est sûr. Je pense que l'équipe Canada, ils se connaissent, tous les joueurs, puis s'ils demandent de jouer un rôle un rôle différent, comme t'es pas habitué à jouer, tu le prends, puis tu fais le meilleur que tu peux avec cette opportunité-là, puis c'est ça que je vais faire, je vais adapter mon jeu, n'importe qu'est-ce qu'il faut, je vais accepter mon rôle, puis je voudrais jouer pour l'équipe Canada.
Ils te connaissent bien, l'expérience de les moins de 18 ans, t'es leader de ces équipes-là, puis tout ça, ça va jouer en ta faveur.
Oui, c'est sûr. Je pense que ça représente beaucoup quel type de joueur je peux être, puis à qu'est-ce que j'apporte au match. Alors, c'est sûr que ça va m'aider beaucoup.
Merci. Bonne continuité.
Merci beaucoup.
Voilà Joe Valeno des Voltigeurs de Drummondville qui a 9 buts, 9 passes pour 18 points en 12 matchs depuis le début de la saison. Peut-être pour compléter sur l'entrevue, bon, évidemment, l'an prochain, Joe Valeno pourrait revenir dans la Ligue junior majeure du Québec pour une 5e saison. Souvenons-nous là, qu'il a eu la permission de jouer à 15 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc, il en est à sa 4e année. Dans un constat, dans une situation comme la sienne, on pourrait l'an prochain, à 19 ans, l'envoyer dans la Ligue américaine. Les Red Wings de Détroit pourraient décider de le retourner à Grand Rapids parce qu'habituellement, un joueur de la Ligue canadienne de hockey, vous savez le règlement, s'il est repêché d'une équipe junior, ne peut pas jouer dans la Ligue américaine à 19 ans. Mais dans le cas de Valeno, on lui permettrait puisqu'il a déjà 4 saisons de complétées. Et pour revenir au dossier d'équipe Canada junior, je disais dans l'entrevue, c'est peut-être ta dernière chance. Ce que je voulais dire, dans le fond, c'est que c'est sa dernière chance comme joueur junior. Mais l'an prochain, même en jouant dans la Ligue américaine à 19 ans, il aurait le droit, si les Red Wings le voulaient, d'être prêté à l'équipe Canada junior pour une participation au championnat mondial de hockey junior de 2020. Bref, je voulais juste ajouter aux détails dont on a fait mention dans l'entrevue concernant Joe Valeno, qui a connu une très bonne semaine d'activité dans la Ligue junior majeure du Québec. Peter Abandonato des Huskies de Rouyn-Noranda est toujours au premier rang des pointeurs de la Ligue junior majeure du Québec. Il a 25 points en 13 matchs. Il devance Alexis Lafrenière, qui a 22 points en 14 matchs. L'Océanique a eu un week-end difficile dans les Maritimes, 3 défaites, mais Lafrenière a récolté quelques points. Certains disent qu'il a un début de saison difficile. Il est quand même deuxième pointeur de la Ligue, mais il n'a que 5 buts en 14 matchs. Moi, j'ai l'impression que les buts vont venir éventuellement, mais les points sont là pour Alexis Lafrenière, deuxième compteur du circuit à seulement 17 ans, faut-il le rappeler. Chez les gardiens de but, il y en a un qui est franchement étonnant en ce début de saison, c'est Alexis Schenk des Saguenayens de Chicoutimi. Quand on consulte les statistiques des Sags, on voit que les Sags ont un très bon début de saison et une des raisons de ce début de saison, c'est la part des nouveaux venus. Les Hendrix Lapierre, qui malheureusement, comme je le disais tantôt, est blessé, va rater de 4 à 6 semaines. Et Théo Rochette et Artémie Niazef, notamment Justin Ducharme, qui est arrivé de Batters, connaît un bon début de saison également. Mais Alexis Schenk, devant le filet, une moyenne de buts alloués en ce moment de 1,22. Il n'a permis que 9 buts en un peu plus là, de 6 matchs, si on veut. Presque 7 matchs. Alors, c'est assez phénoménal. Le taux d'efficacité, il est le premier dans la Ligue également à 954. Alors, ce sont des statistiques qui nous ont dit, ben, pourquoi pas en découvrir un petit peu plus sur Alexis Schenk, gardien de but de 18 ans des Saguenayens de Chicoutimi. On l'a rejoint un petit peu plus tôt. On vous présente cette entrevue. Alexis Schenk, gardien de but des Saguenayens de Chicoutimi. Si je t'avais dit, Alexis, en début de saison, que tu te retrouverais avec les statistiques que tu as présentement après une dizaine de matchs, est-ce que tu aurais cru ça possible? Une moyenne de 1,22, c'est le cas de le dire, ça va assez bien pour toi, merci.
Ouais, c'est sûr, ça va vraiment bien. Puis pour vrai, des statistiques comme ça, c'est quasiment irréel après une dizaine de matchs, là, tu sais, je regardais l'année passée, puis j'avais vraiment pas des statistiques comme ça. Puis je voyais, on a une jeune équipe aussi, beaucoup de nouveaux joueurs à défense, puis à l'attaque aussi. Fait que je pense que je m'attendais pas à ça, mais les joueurs se sont vraiment adaptés vite, puis ils me facilitent beaucoup la tâche là-dessus.
Alexis, qu'est-ce qui explique un peu ça? Est-ce que tu as quelque chose que tu as changé dans ton approche envers les matchs? Est-ce que c'est l'année d'expérience maintenant que tu as parce que tu en es à ta deuxième saison dans la Ligue? Parce que tu étais quand même un très bon gardien là, dans la Ligue Midget 3A. Alors, la transition là, semble s'être mieux faite cette année. Est-ce qu'il y a une explication à ces succès-là en début de saison?
Mais c'est ça, comme tu le disais. J'ai une année d'expérience dans la Ligue. L'année passée, je suis arrivé ici... T'sais, j'étais encore sous les shots midget 3, puis la vitesse du jeu midget 3. Puis là, ça m'a pris un petit moment à m'adapter. Puis là, cette année, je suis vraiment arrivé prêt. T'sais, je savais à quoi m'attendre. Puis l'année passée, c'était toutes les mêmes shots, la vitesse de jeu. Fait que je pense que je suis arrivé mieux adapté, puis plus près cet été. J'ai travaillé fort aussi. Fait que je pense que ça a un gros impact là-dessus.
Les Sacs ont un bon début de saison, Alexis. 7 victoires, 3 défaites en bris d'égalité. Est-ce que vous êtes un peu surpris de votre début de saison? Il y avait quand même eu 2 revers contre Bécomo en partant là, lors des 2 premiers matchs, mais depuis ce temps-là, vous perdez pratiquement jamais là, en temps réglementaire.
Oui, exactement. Mais tu sais, on a 2 défaites contre Bécomo. Puis eux, Bécomo s'avère être une des meilleures équipes de la Ligue, là, maintenant on le voit. Puis mais ouais, je pense que c'est quand même une surprise parce que tu sais, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, tu sais, on est une jeune équipe. Puis mais par exemple, on a beaucoup plus de talent que je pense que l'année passée. On regarde les Lapierre, Rochette, fait que ouais, c'est beaucoup de talent, mais je pense que ils se sont adaptés un peu plus vite que prévu, puis toute l'équipe, on travaille fort, on est vraiment soudés aussi. Je pense qu'on a vraiment une très, très bonne esprit d'équipe. Fait que je pense que ça l'aide à notre succès en ce moment.
Devant le filet, pour la 2e saison de suite, tu partages le travail avec Zachary Boutillier, qui lui a été repêché par les Maple Leafs de Toronto. Comment ça se passe un peu entre vous deux, la compétition? Lui a 19 ans, il est repêché. Toi, tu as 18 ans. Bon, tu n'as pas été repêché. J'imagine que tu espères toujours. Vous êtes deux, dans le fond, deux gardiens âgés. Là, comment vous vivez ça, la compétition entre les deux?
Ben, en fait, c'est pas un gros changement parce qu'on a fait ça l'année passée. Fait qu'on est... C'est un peu comme le même scénario que l'année passée. Fait que mais ouais, nous, moi et Pouty, on s'entend vraiment bien. Les deux, on s'entraide. Puis pour vrai, il n'y a pas vraiment tant de compétition parce que on le sait qu'on va faire moitié-moitié. Puis si on a un mauvais match, on va jouer le prochain. Puis fait qu'on s'en fait pas avec ça. Puis aussi, les deux, on s'encourage tout le temps. Fait que je pense qu'on est un beau duo là.
C'est de la façon dont Yannick Jean travaille avec vous. Vous savez pas mal d'avance qui va jouer, puis il vous a dit quoi? Ça va être le principe de partage du filet encore pour quelques semaines, quoi?
Ouais, ben en fait, ils nous ont rencontrés début de l'année, puis il nous a dit que ça allait pas mal être ça jusqu'à Noël. Après ça, on allait voir. Mais ouais, d'ici Noël, d'après moi, ça va être ça va ressembler à ça, le moitié-moitié.
Les Sags ont une bonne équipe cette année. Tu as parlé de Théo Rochette, de Hendrix Lapierre. Malheureusement, Lapierre qui a été blessé. Là, mais les Sags, on le sait, c'est une équipe qui vise un peu plus pour l'an prochain que pour cette année, sans nécessairement dire que cette année, là, on veut pas gagner. Toi, tu pourrais être le gars important là, devant le filet l'an prochain là, pour cette formation-là, parce que tu auras 19 ans. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme ça à long terme un peu?
Hey, c'est sûr, ça serait vraiment le fun. Là, je pense que tout goaler veut être une pièce importante pour son équipe. Mais en ce moment, j'essaie de pas voir trop loin. Je vais match par match. Puis c'est un peu cliché, mais c'est vraiment ça qu'il faut faire. Parce que voir trop loin, des fois, on se crée des attentes. Puis fait que j'essaie de rester... laisser ça un peu... j'essaie de me contenter de maintenant.
Puis je te parlais du repêchage tantôt. Bon, ça n'a pas été le cas pour toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses encore avec le début de saison que tu as en ce moment? On dit souvent maintenant, les gardiens, s'ils n'ont pas 6'2", 6'3", c'est un petit peu plus difficile. Toi, t'es quoi, le 6 pieds en ce moment? Alors, c'est rendu quasiment petit être gardien de 6 pieds dans le hockey d'aujourd'hui?
Ouais, ben c'est ça. Mais je me dis qu'au moins j'ai le 6, tu sais. <C'est>, Mais ouais, non, mais c'est ça. Je vois aussi, je l'ai vu aussi qu'il repêchait beaucoup de gardiens de but de 6'2" et tout. Mais sincèrement, moi je pense que si un goaler fait une bonne job, je pense qu'il a autant sa place qu'un autre. Fait que non, je me suis déjà fait à l'idée. Puis ça, comme on dit, ça me shake pas là. C'est puis de toute façon, même si je suis pas repêché, j'aimerais, il y a des chances que je sois invité ou j'ai d'autres possibilités, mais ouais, mais c'est sûr que ça serait vraiment le fun. J'essaie de pas trop y penser, ça non plus.
Alexis, merci de prendre le temps de discuter avec nous pour le bénéfice de nos auditeurs qui écoutent notre balado-diffusion. La vie d'un joueur de hockey junior, c'est comme ça. Là, Alexis nous parle, mais tu es à une dizaine de minutes d'entrée dans un de tes cours. C'est comme ça, les Sags ont joué 3 matchs en 4 jours. Là. Aujourd'hui, c'est l'école, il n'y a pas d'entraînement. T'étudies en quoi, Alexis, puis comment ça se passe de ce côté-là?
Ben, en fait, à l'école, tu sais, on n'a pas vraiment beaucoup de temps, mais... Je suis en sciences humaines, c'est ça. Je fais mes cours de base, mais j'aimerais bien être pompier, mais ils donnent pas la technique en incendie ici. Fait que je fais mes cours de base, puis ça va comme ça va, puis rendu après mon stade junior, peut-être je vais plus poursuivre mes études chez nous pour poursuivre. Pour être pompier, dans le fond.
Ben, merci beaucoup, Alexis. Écoute, il y a 2 gros matchs contre le Drakkar de Baie-Comeau en fin de semaine. Vendredi à Chicoutimi, samedi à Baie-Comeau. Donc, c'est un programme double. Comme tu le disais, une des bonnes équipes de la Ligue. Donc, pour vous, c'est important, ces 2 matchs-là contre le Drakkar en fin de semaine. On va te souhaiter bonne chance. Puis, écoute, continue sur ta lancée. 1,22 de moyenne en ce moment. Là, c'est non seulement la meilleure moyenne au hockey junior de la LHJMQ, mais dans toute la Ligue canadienne de hockey en ce moment. Alors, nous, on tenait à le souligner et à discuter avec toi. Merci beaucoup, Alexis.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne journée.
Alors voilà donc Alexis Schenk, gardien de but de 18 ans des Saguenayens de Chicoutimi, qui connaît un début de saison du tonnerre. Faudra surveiller s'il sera en mesure de maintenir ses chiffres. Ce serait étonnant quand même, le 1,22, ça tient un peu de la science-fiction, mais en demeure pas moins que c'est un excellent début de saison. Parlant de science-fiction, les Chevaliers de Lévis, 16 victoires, aucune défaite depuis le début de la saison. Ils ont marqué 99 buts, n'en ont accordé que 28. On parle évidemment là, de la Ligue de développement Midget 3A. Donc, les Chevaliers, avec 2 autres victoires en fin de semaine, ont égalé le record de la Ligue Midget 3A pour le meilleur début de saison de l'histoire de circuit qui a plus de 40 ans. Les riverains du Collège Charlemagne en 2000-2001 avaient également amorcé leur saison avec 16 victoires et aucune défaite. Dans le cas de Lévis, c'est vraiment phénoménal. Hier, on a eu besoin de la prolongation pour l'emporter. Mais la séquence se poursuit. Les 2 prochains matchs des Chevaliers auront lieu à domicile vendredi contre les Estacades de Trois-Rivières, qui forment une des bonnes équipes de la Ligue. Et samedi, ce sera le Collège Esther Blondin qui sera le visiteur de l'Aréna Charny à Lévis. Donc, les Chevaliers s'attaquent maintenant à la marque absolue de victoires consécutives dans le circuit, qui est de 25. Donc, il leur en manque encore 9, mais ils en ont quand même 16 derrière la cravate. C'est la 3e plus longue séquence de l'histoire. Les Lions du Lac-Saint-Louis, en 2007-2008, avaient gagné 17 matchs de suite. Et le record absolu de 25 victoires de suite appartient au gouverneur de Sainte-Foy de 84-85. Donc, à surveiller les Chevaliers de Lévis. Et ça met un peu dans l'ombre le début de saison des Cantonniers de Magog, qui est excellent aussi. 13 victoires, 2 défaites, les 2 défaites en prolongation. Il n'y a pas eu de défaite encore en temps réglementaire pour... les cantonniers de Magog. Alors, c'est quand même un excellent début de saison pour l'équipe de Félix Potvin. Peut-être vous mentionner une dernière petite nouvelle en terminant. La direction du Rocket de Laval a signé le gardien Étienne Marcoux au Fuel d'Indy de la ECHL. Les droits de Marcoux appartenaient à cette formation de l'Indianapolis dans la ECHL. Il y avait 3 gardiens à Laval depuis le début de la saison. Charlie Lindgren, Michael McNiven et Étienne Marcoux. Donc, un joueur de moins dans l'entourage du Rocket. Marcoux sera évidemment rappelé par le Rocket si jamais un gardien à Montréal se blesse ou un gardien à Laval se blesse. Marcoux en est un autre ancien du junior de Montréal et de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Il connaît bien Joël Bouchard. Il reste encore 25 joueurs dans l'entourage du Rocket. Joël Bouchard me disait vendredi dernier, c'est peut-être un peu trop. Il y a des joueurs qui n'ont pas eu un seul match depuis le début de la saison. Michael Pezzetta n'a pas joué un seul match depuis le début de la saison. Évidemment, ça devient un peu difficile à ce moment-là de donner d'Atlas à tout le monde. Même chose pour Jeremiah Addison, qui n'a pas eu de match non plus depuis le début de la saison. Alors donc, peut-être qu'on les verra en action au cours des prochaines rencontres. Aiden Verbeek n'a joué qu'un match vendredi soir. C'est difficile présentement là, de faire des changements parce que l'équipe ne joue pas mal, même s'il n'a que 3 victoires et 4 défaites. L'équipe joue de bonnes performances, mais les victoires ne sont pas au rendez-vous. Alors voilà ce qui complète notre édition numéro 3 de notre balado-diffusion sur la glace. Je tiens à remercier nos collaborateurs et invités, Patrick Friolet, notre collègue à RDS, de même que Joe Veleno des Voltigeurs de Drummondville et Alexis Shank des Saguenayens de Chicoutimi d'avoir pris le temps de se prêter au jeu. Je remercie également Luc Dansereau qui est là à la technique et nous, ben, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Sur la glace.